Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, l'année 2004 a été marquée par un double anniversaire pour un seul homme, le maréchal Hubert Lyautey. Né en 1854 sous le Second Empire, mort en 1934 alors que la Troisième République est en crise, Hubert Lyautey reste pour la postérité le fondateur du Maroc moderne. Homme d'action par excellence, éloigné des cénacles politiques parisiens, Hubert Lyautey repose aujourd'hui près de Napoléon et de Foch sous la coupole des Invalides. Personnalité très complexe, considéré par beaucoup comme une énigme, la vie publique de Lyautey est marquée par le sceau d'une réussite indéniable. Il n'en reste pas moins chez lui un goût d'inachevé. Alors, qui fut Lyautey ? Influença-t-il son époque plus qu'il ne fut influencé par elle ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec Arnaud Tessier. Arnaud Tessier, bonjour.
Bonjour.
Arnaud Tessier, vous êtes ancien élève de l'ENA, haut fonctionnaire, mais aussi historien. Vous avez publié une biographie de Lyautey, parue chez Perrin en 2004. Une biographie qui a reçu le prix du Nouveau Cercle de l'Union, le Cercle de l'Union présidé par l'académicien Gabriel Debreuil. Alors, Arnaud Tessier, ça sera ma première question. Comment en êtes-vous arrivé à traiter un tel sujet ? Est-ce par affinité ? Est-ce par goût ?
D'abord, c'est en raison d'une photo, parce que j'ai dans la famille, nous avons une photographie de Lyautey qui est chez moi et qui représente Lyautey en tenue de maréchal de France. C'est une photo qui est dédicacée à mon arrière-grand-père qui avait travaillé avec lui. Et j'avais toujours été frappé par cette allure étrange, puisqu'il est dans son grand uniforme de maréchal de France, donc plein de dignité, assis avec beaucoup de noblesse. Et puis à la main, il tient, d'un geste très légèrement décontracté, une cigarette. Et j'ai toujours trouvé que cette posture était assez originale. Et ça me donnait envie d'aller voir un petit peu derrière. Et puis j'en ai beaucoup entendu parler dans ma famille. Dans les livres d'histoire, j'ai beaucoup lu de choses sur lui. Je trouvais que c'était un homme très étrange, car finalement, qui avait tendance à tomber un peu dans l'oubli. Alors qu'en même temps, il avait eu une importance presque mythique énorme. Je le voyais à travers le récit de beaucoup de gens qu'il évoquait. Et en même temps, en plus, on pouvait avoir le sentiment que c'était un homme qui était presque immaculé, c'est-à-dire toujours évoqué de manière positive. Enfin, un personnage étrange. J'ai eu envie de l'étudier pour cette raison.
Alors, travailler sur un tel personnage est une chose particulière parce qu'au fond, quand on est historien, il se distingue par ses nombreux écrits. C'est-à-dire que c'est un homme qui écrivait tout le temps, ce qui fait que le travail de l'historien en est plus ou moins facilité. Je dis plus ou moins parce que l'historien, au fond, est confronté soit à trop peu de documents, soit à beaucoup trop de documents. Comment avez-vous abordé toute cette documentation ?
De tous les maréchaux académiciens d'ailleurs, c'était celui qui était sans doute le plus littéraire authentiquement, car il avait un talent d'écriture considérable. Eh bien, c'est extrêmement difficile, car Lyautey a laissé effectivement une œuvre qui était publiée, composée d'ouvrages, de réflexions, de recueils de correspondances. Il écrivait énormément de lettres. Il y a des milliers et des milliers de lettres de Lyautey. Il y en a dans les fonds privés qui ne sont certainement pas connus, hein, qui demeurent dans beaucoup de fonds privés. Il y en a beaucoup qui sont connus, beaucoup qui ont été publiés de son vivant même. Il a publié des lettres de son vivant. Quand il écrivait des lettres à des interlocuteurs, notamment des personnalités parisiennes qu'il connaissait, il les écrivait en sachant et en encourageant même le fait qu'elles soient diffusées. C'est-à-dire que pour lui, c'était presque un instrument de propagande.
Oui, nous le verrons quand il est en Indochine, il écrit à Paris et à Paris, ses lettres sont lues par des grands comme notamment Albert Sorel.
Il écrivait énormément et très curieusement, il a toujours écrit. Alors il y a eu des périodes où il écrivait un petit peu moins, notamment lorsqu'il était résident général au Maroc pendant la guerre de 14. Mais quand même, il y a une sorte de production gigantesque. Il a des notes énormes. C'est très étrange. C'est un homme qui avait besoin d'écrire, de se livrer. Et on ne sait jamais très bien d'ailleurs s'il écrivait uniquement pour lui-même ou si, à tout moment, il n'écrivait pas pour un jour être lu. Un peu comme le petit poussé, c'est très curieux.
Certains lui reprochent de vouloir manipuler par cette écriture.
Oui, d'ailleurs, on lui reprochait de son vivant. Il était très attaqué pour ça, pour ce sens aigu de la communication, pour son côté comédien. Il le disait lui-même. Il disait « Je sais qu'on me reproche d'avoir monté une sorte de Barnum. » Et il y a une part de vérité, c'est-à-dire que c'était un homme qui était sans doute un des précurseurs les plus géniaux de la communication politique. Mais en même temps, comme souvent les grands acteurs de théâtre sociaux, il était sincère aussi par certains côtés, c'est très étrange. Il y avait un mélange de sincérité, de comédie chez lui, qui était constant, les choses se mélangeaient, sans doute parce qu'il était quand même extraordinairement égocentrique, très 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 obsédé par sa propre personnalité. Il le dit d'ailleurs souvent dans ses papiers, dans ses notes, dans ses journaux de jeunesse. C'est vraiment une personnalité très complexe. Et donc, il est évident que cette masse de documentation extraordinaire, très touffue, demande à être abordée d'une manière très, très rigoureuse. Mais c'est très étrange parce qu'en même temps, encore une fois, il y a des choses... C'est très sincère en même temps. J'ai lu un jour, sous la plume d'un historien tout à fait respectable, d'ailleurs un historien de l'Afrique du Nord très, très remarquable, que ses discours étaient des discours très, très, très orientés vers la propagande. Mais en réalité, quand on relit ses discours quand il est au Maroc, ils sont en même temps très sincères. C'est un homme qui savait s'adapter à son public, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas sincère. C'était un grand politique de ce point de vue-là. Donc je crois qu'on peut, il faut évidemment prendre avec précaution ce qu'il écrit, mais en même temps, il faut le lire aussi au premier degré. Et il m'a semblé trouver dans ses écrits des choses auxquelles on ne faisait pas souvent assez attention.
Alors, vous notez dans votre biographie que les fonds classés, les fonds concernant Lyoté, ont été classés par Françoise Hildesheimer, qui a écrit une biographie de Richelieu.
Oui.
Est-ce qu'il y a un lien entre Richelieu et Lyoté ?
Une très belle biographie de Richelieu, d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimée. Oui, il y a un lien, et je trouve d'ailleurs que dans son livre, qui est très beau, la plus belle partie du livre, qui est tout entier très beau, mais la plus belle partie du livre, c'est l'étude de la jeunesse de Richelieu, car elle humanise Richelieu d'une manière qui m'a rappelé effectivement certaines choses que l'on sent dans l'enfance et l'adolescence de Lyoté, c'est-à-dire ces hommes qui ont été des personnalités de manière très différente, des personnalités très fortes, ont eu des enfances et des adolescences marquées par une certaine fragilité, et puis un équilibre délicat entre une volonté d'affirmation physique, très présente chez Lyoté, mais aussi chez Richelieu, et une grande fragilité en même temps. Et puis ce sont des hommes dont la vie a été tendue vers quelque chose, qui ont essayé de dépasser. Alors chez Lyoté, il y a tout un contexte psychologique très lourd. Il a cherché à dépasser ses troubles intérieurs, les difficultés psychologiques profondes qui marquaient sa personnalité. Chez Richelieu, c'est plus mystérieux, parce que nous savons moins de choses sur Richelieu. Il ne nous a pas laissé, hélas, autant de témoignages sur lui-même, en tout cas pas autant de témoignages personnels, loin de là. Mais chez Richelieu, il y a aussi ce côté étrange, il y a un mystère derrière la robe rouge, sur la personnalité la plus intime de Richelieu. Et effectivement, je trouve que ce qui fait la richesse exceptionnelle du livre de Françoise Hildesheimer, c'est que c'est la première fois que j'ai lu des choses aussi senties et aussi précise et aussi sensible sur la personnalité et sur le caractère de Richelieu comme homme.
Alors, nous allons revenir bien évidemment sur cette jeunesse, mais avant, vous faites un acte d'humilité que j'apprécie fortement. En fait, vous citez Françoise Hildesheimer, qui considérait que Lyoté fut sans doute l'un des plus abondants épistoliers du XXe siècle, ce à quoi vous ajoutez « il y a encore de belles investigations en perspective ». Lyoté est-il un sujet inépuisable ?
Ah, il y a encore énormément de choses, enfin... Il y a un aspect, par exemple, sur lequel j'ai pris un grand plaisir à travailler, parce que ça n'avait pas été du tout abordé ou très peu par les biographes de Lyoté, c'est ses relations avec le milieu politique, notamment le milieu politique de droite, d'Action française ou de droite conservatrice de la Troisième République. Il y a des lettres extraordinaires de Daniel Halévy, il y a sa correspondance avec Maurras, il y a des choses très étonnantes qui n'ont pas été encore suffisamment exploitées. Des grandes amitiés intellectuelles. Et puis, il y a beaucoup de choses. Hein, beaucoup de choses ont été écrites, mais il reste encore beaucoup de choses à apprendre, même sur le Maroc, où pourtant un gros travail a été fait, très, très impressionnant, par Daniel Rivet. Beaucoup de choses sur des périodes moins connues de son existence, sur ses 40 premières années, somme toute, puisqu'il n'a commencé à vivre de sa vraie vie, de son propre aveu, qu'à 40 ans. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Alors les problèmes de source, parce que on sait qu'une partie de ses souvenirs et biens personnels ont disparu dans l'incendie de son château familial de Crévic en 1914. Mais enfin, il y a beaucoup de fonds privés, à mon avis. Tous les jours, je vois des gens qui m'écrivent ou qui me parlent de lettres que leur famille a ou qu'un ami a, de lettres de l'IOT. Et à chaque fois, ce sont des lettres extraordinaires. Ce sont pas des lettres. C'est un homme qui n'écrivait jamais pour ne rien écrire. Il écrivait toujours des lettres extraordinaires sur les sujets les plus anodins. Donc, je pense que rien que sur ces correspondances, il y a encore énormément de choses à découvrir.
Un historien ne referme jamais ses dossiers et le vôtre n'est pas fermé.
Non, et puis il y a aussi la représentation de l'IOT à travers les historiens. Mmh. J'ai eu la chance de pouvoir acheter chez un libraire des notes d'André Mauroy qui date de l'époque où il écrit sa biographie de l'IOT. Il y aurait une petite étude à faire sur l'IOT vu par André Mauroy et la biographie de l'homme vivant, enfin du grand homme vivant, hein, qui a encore beaucoup de choses à faire aussi par miroir, par réfraction sur ce personnage.
Alors venons-en à la biographie en elle-même et tout simplement à ses origines. L'IOT est un Lorrain.
Oui, il est en partie Lorrain, en partie franc-comtois, mais c'est vrai que ses attaches familiales les plus proches, son lieu d'enfance, c'est la Lorraine et il y restera attaché toute sa vie.
Il a ce que vous appelez l'obsession des origines. Dans quel milieu familial vit-il ?
Oh, c'est un milieu qui, plus par la famille de sa mère que par la famille de son père, mais des deux côtés, qui est d'origine. La famille de sa mère, c'est de la petite, c'est de la petite aristocratie. Du côté de son père, c'est une famille traditionnelle, anoblie. Donc ce sont des origines qui sont en partie aristocratiques, pas de la grande aristocratie, mais qui sont en partie aristocratiques, et dont il était fier, mais pas au sens où il souhaitait arborer des titres. Il était très obsédé par la notion de race, mais pas au sens évidemment fâcheux qui s'est développé à partir du deuxième tiers du XXe siècle. Très obsédé par l'idée de race au sens transmission d'un caractère, d'une certaine noblesse physique. Alors je pense qu'il y a deux raisons à cela. D'abord, il était très barésien, entre guillemets, c'est-à-dire il croyait beaucoup à la transmission des caractères, des tempéraments, des principes. Il y croyait beaucoup. Et puis il y a une deuxième raison, c'est qu'il avait eu une enfance physiquement marquée, puisque un accident...
Oui, venons-en à ce fameux accident. Il a 2 ans.
Il était obsédé donc par ça, par le côté... assomption physique en quelque sorte.
Que lui arrive-t-il justement à 2 ans ?
Eh bien, quand il était bébé, sa nourrice le tenait sur le balcon de l'appartement familial au moment où il y avait un défilé dans la rue. Elle s'est un peu trop penchée. Il est tombé d'assez haut. Il a eu la chance, si l'on peut dire, de rebondir sur l'épaule d'un cuirassier qui passait en dessous à ce moment-là. Sur le moment, on a eu le sentiment qu'il n'avait rien, qu'il s'en tirait miraculeusement. Et on s'est aperçu peu de temps, quelques mois après, qu'en réalité, il avait des séquelles à la colonne vertébrale. En fait, on a su depuis que c'était peut-être lié à une maladie qui n'avait rien à voir. Toujours est-il qu'il a dû passer une partie de son enfance et de son adolescence au lit, puis dans un corset, donc handicapé physiquement.
Alors, quelles vont être les conséquences justement de cet handicap ? C'est ce que je vous propose de voir, Arnaud Tessier, après une première pause. À tout de suite.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio-Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques, les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année. Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, leur donne la parole. Connectez-vous sur www.canalacademie.com et écoutez.
Christophe Dicques.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Arnaud Tessier, auteur de la biographie consacrée au maréchal Lyoté, paru aux éditions Perrin l'an dernier. Alors, nous avons évoqué ce fameux accident alors qu'il a 2 ans. Et en fait, c'est un accident qui va déterminer tout, non pas toute sa vie, mais en tous les cas qui va bien le marquer, puisque pendant 10 ans, il va être bloqué, il va devoir, comme vous l'avez dit précédemment, porter un corset. Et c'est un jeune garçon qui va se lire beaucoup et il va s'attacher à l'histoire.
Oui, il lit beaucoup de livres d'histoire et de géographie aussi. beaucoup de livres d'histoire de géographie sur l'histoire de France, sur la géographie de la France, sur la géographie du monde. Il est quand même très, sans vouloir faire d'anachronisme et imaginer que son destin d'Indochine et du Maroc était déjà dessiné, il est quand même très, très passionné par la géographie et puis par la rencontre des deux. Par exemple, il lit énormément de choses sur l'Antiquité, sur la Grèce, sur la Rome antique, sur l'Égypte, ça forme un petit peu un tempérament. Il lit des romans d'aventure aussi, des romans médiévaux. Donc il s'évade en réalité.
Est-ce qu'il a le goût de l'écriture à ce moment-là? Est-ce qu'il commence à écrire?
Alors il a en tout cas le goût du dessin. Puisqu'on a la chance d'avoir, c'est aux Archives nationales, des dessins d'enfance très tôt. Il a commencé à dessiner des animaux, des personnages. Et il a toujours gardé un talent de dessinateur qu'on retrouvera d'ailleurs, puisque dans ses Lettres du Tonkin de Madagascar qui seront publiées en 1920, donc alors qu'il va devenir maréchal de France, il est résident général au Maroc, on publie dans l'édition chez Armand Collin, on publie ses dessins du Tonkin. Il s'exprime par le dessin et puis par l'écriture. C'est quelqu'un qui a très tôt su écrire avec beaucoup d'élégance et d'aisance. Enfin, il y a un surdéveloppement intellectuel très proustien qui compense cette sorte de contrainte physique qui lui est imposée.
Il a un grand talent d'observation ?
Oui, un très, très grand talent d'observation qui vient de sa situation et puis de son caractère. C'est un très bon observateur de l'environnement humain, de l'environnement physique. Il a un œil quasiment de topographe. C'est un très bon observateur de lui-même aussi, parce qu'un de ses traits de caractère qui peut-être s'explique, sans faire de la psychanalyse de bazar, qui s'explique sans doute aussi par cette enfance et cette adolescence un peu contrainte, c'est qu'il s'analyse beaucoup lui-même. Il se le reprochera souvent, d'ailleurs.
Alors donc, il y a cet amour de l'histoire, il y a cet amour de la géographie, il a ce talent d'observation. Et la religion dans tout cela? Est-ce que la religion le touche? Bon, on se doute qu'à cette époque, il est rentré chez les jésuites. À cette époque-là, que représente la religion pour lui?
Il est attiré par la religion, c'est-à-dire qu'il semble, d'après ce qu'on peut deviner de ses écrits, de ses témoignages, de ceux qui l'ont approché, il semble qu'il ait désiré sincèrement être aspiré par une vocation religieuse. Et pendant des années, il va la chercher, cette vocation religieuse. Il veut croire qu'il est attiré par Dieu, et d'ailleurs, il a eu une relation très, très sincère, très forte, à travers la prière, à travers ce nombre d'écrits personnels qui nous sont restés, avec Dieu, la religion, la foi. Mais ça sera un échec. En réalité, il va faire plusieurs séjours à la Grande Chartreuse, au moins deux séjours à la Grande Chartreuse, qui en réalité, cela aboutira à un constat, c'est qu'il n'est pas réellement, il n'a pas réellement de vocation religieuse. Sans doute a-t-il cherché dans cette vocation religieuse une sorte d'exutoire à une sorte de malaise intérieur qu'il n'a jamais quitté. Et je crois qu'il en a tiré une grande déception, et il y a un signe qui ne trompe pas à cet égard. C'est ses relations très étranges et très compliquées avec le père de Foucault, qu'il rencontrera une première fois lorsque Foucault est officier en Algérie, qu'il retrouvera ensuite sur les confins algéro-marocains lorsque Lyoté commandera dans le sud oranais. Et là, de Foucault sera devenu ce véritable marabout au rayonnement intense. Et on sent dans l'attitude de Lyoté vis-à-vis de Charles de Foucault à la fois une fascination authentique, une attirance pour le personnage, et quelque chose qui ressemble un peu à l'envie, pas au sens très péjoratif du terme, mais une sorte de regret. C'est-à-dire que je pense que le rêve profond de Lyoté, ça aurait été un destin à la Charles de Foucault. C'est-à-dire être à la fois ce qu'il a été, Lyoté, c'est-à-dire un personnage mythique dans toute l'Afrique du Nord, et même en France et à l'étranger pour beaucoup, vers la fin de sa vie. Il aurait voulu être non seulement cet être mythique qu'il a réussi à être, mais être en même temps un symbole de foi religieuse, quelque chose d'un peu plus qu'un grand constructeur politique, un grand militaire, un grand personnage public. Il y a sans doute cette nostalgie, c'est pour ça qu'il aura des rapports avec la religion très compliqués. Il s'en éloignera durablement, tout en restant très attaché à l'Église. Il ne reviendra à la foi religieuse que dans les dernières années de sa vie.
Il garde tout au long de son existence une sorte de mélancolie.
Oui, une mélancolie très forte. Oui, très forte.
Il a même un terme qu'il prend chez Lucrèce, je crois, le tédium, c'est oui. Ça
qui est plus fort que mélancolie. C'est la mélancolie au sens fort, c'est-à-dire c'est le dégoût de la vie, littéralement. Dégoût qui le poussera assez loin, puisqu'on sait qu'il sera à un moment donné tenté par le suicide, qu'il ne mettra pas évidemment en exécution, mais il sera tenté par le suicide alors qu'il a 55 ans, qu'il est général de division, enfin que c'est un personnage public, il a dépassé les troubles de la jeunesse. Donc on sait qu'il sera tenté au moins une fois par le suicide, et puis c'est quand même ce mal-être qu'il va trimballer littéralement pendant une bonne partie de son existence et qui transparaît dans tous ses écrits, qu'il n'a jamais cherché à nier d'ailleurs, mais qu'il a en quelque sorte sublimé, dépassé à travers cet activisme infatigable qui le marque à partir du moment où il part pour l'Indochine et où commence cette grande carrière outre-mer.
Alors justement, on ne peut évoquer Lyautey sans parler de ses voyages. On passe bien évidemment sur la période où il entre à Saint-Cyr, il en sort jeune officier et il part en voyage pour la première fois en Algérie en février-mars 1878 et il y retourne, mais cette fois deux années, en 1880-1882. C'est là que commence véritablement la vie de Lyautey.
C'est là qu'il commence. Non, sa vie vraiment, de son propre aveu, sa vie commence réellement, sa vraie vie, quand il part pour le Tonkin en 1894. Ce que lui ont apporté ses voyages en Algérie, c'est d'abord le contact avec l'Afrique du Nord, qui sera très important dans sa vie, pour les raisons que l'on connaît. Contact avec l'Afrique du Nord, avec le monde arabe, la culture arabe, l'islam. Un contact pas très facile au début, il a une réaction qui n'est pas très positive vis-à-vis de l'islam dans un premier temps. Contact donc avec la société arabe, notamment la société arabe la plus policée, la plus cultivée. Et puis contact avec le soleil, car c'est quelque chose qu'il ne faut jamais perdre de vue. Lyautey était un homme qui supportait la chaleur comme aucun d'entre nous ne pourrait la supporter. C'est-à-dire que par 45 degrés à l'ombre, là où 50 degrés à l'ombre, là où ses officiers peinaient, lui, il était heureux, car il redoutait le froid. Il redoutait le froid et s'il aimait profondément la Lorraine, il n'en aimait pas le climat. Il redoutait le froid, il aimait la chaleur, il aimait la lumière de l'Afrique du Nord. Et là aussi, ça réchauffait ses os, car il avait ce souvenir de cette enfance confinée, froide, dans le Nancy, froid, de ce corset qu'il a enserré pendant toute son enfance et une partie de son adolescence. Et le soleil, il lui apportait comme une sorte de libération. Ce n'est pas quelque chose de totalement original, mais en tout cas, il l'a eu dans ses lettres. Des termes pour décrire tout cela qui sont très remarquables. Le soleil et les couleurs de l'Algérie l'ont fasciné. Et donc il a eu quand même un amour immédiat pour l'Afrique du Nord qui jouera un rôle important dans la suite de son existence.
Vous mettez en avant son inaction parce qu'il reste 10 ans capitaine. Il reste en France où il ne fait pas grand-chose. En revanche, quand il est à l'étranger, on a l'impression qu'il est prêt à agir et qu'il agit au fond.
C'est-à-dire que jusqu'en 1894, jusqu'à ce que le général de Boisdeffre l'envoie au Tonkin, il a une vie de garnison en réalité, avec quelques échappées, puisqu'il fait des voyages soit à caractère semi-officiel, comme un voyage qu'il effectue en Italie, soit pour ses loisirs. Il fait des voyages notamment en Europe, en Grèce, en Italie. Il aime voyager, mais
il rencontre Léon XIII.
Voilà, il rencontre le comte de Chambord. Donc il aime déjà voyager, même si ses voyages ne sont pas encore d'un exotisme forcené. Mais il s'ennuie quand même parce que c'est la vie de garnison. Il s'y intéresse. Et c'est pour ça qu'il va publier le rôle social de l'officier. Il s'y intéresse parce que justement, il remarque qu'on s'ennuie dans l'armée française. Il trouve que ce n'est pas tout à fait normal. Il a une réflexion très, très approfondie là-dessus. Et c'est comme ça que ses premières idées sur la société militaire se développent. Mais sa vraie vie comme individu, il l'a toujours dit et écrit très clairement, ça va commencer avec le départ pour le monde lointain, pour les colonies, pour l'Indochine, et ça va être comme une sorte de libération psychologique, au point que d'ailleurs que j'ai en mémoire une lettre qu'il écrit à sa sœur, où il est assez sévère pour l'éducation que lui ont délivré ses parents, que leur ont délivré à lui et sa sœur, ses parents, qu'il adorait pourtant. Mais il dit en substance, ils nous ont empêchés de vivre vraiment jusqu'à présent.
Alors, il couche sur le papier des mots terribles. Il dit « à quoi bon ?» Il parle de « coma stérile où je suis tombé ». Alors, il rencontre quand même un colonel qu'on se doit de citer parce que il a joué, tout comme jouera plus tard Gallieni, un rôle très important. C'est le colonel Donop. Et c'est à cette époque-là aussi, en 1891, qu'il publie un texte quasiment révolutionnaire. Et c'est ce texte qui, alors on ne sait pas vraiment, qu'il le poussera peut-être au Tonkin.
Alors en réalité, c'est un texte qui n'est pas si révolutionnaire que cela. C'est-à-dire que Lyautey reprend des idées qui ne sont pas tout à fait toutes nouvelles, mais il les exprime avec une habileté extrême. C'est-à-dire que dans un gros article de revue qui
publié dans la revue des Domaines,
voilà, et qui est publié en livre ensuite, il arrive avec beaucoup d'habileté à ramasser des idées qui ne sont pas toutes totalement originales, mais qui ont un impact immédiat puisque le livre, grâce aussi au relais mondain qu'il a accumulé depuis quelques années, parce qu'il est très mondain quand même, notamment grâce à Eugène Melchior de Vauguet, qui est un peu son parrain dans le milieu politique et littéraire parisien, et de Saint-Germain-en-Laye. Grâce à ses soutiens, le livre passe entre les mains de Guillaume II, enfin, lui assure une notoriété immédiate. Il est cité par le président de la République en Conseil des ministres. Tout de suite, c'est la notoriété, et c'est peut-être une des raisons, parce que le livre dérange un peu, qu'ils le font envoyer en Indochine. Il y a d'autres explications possibles, toutes sortes d'explications. On ne sait pas exactement ce qui était le plus déterminant.
Oui, vous parlez notamment de ces liens avec un attaché allemand en pleine affaire Dreyfus. C'est une thèse qui a été aussi développée.
Oui, dans un très bon livre sur Lyautey avant Lyautey de Pascal Venier, c'est une hypothèse qu'il évoque. Voilà un sujet qui mériterait, je ne sais pas s'il y avait les sources, on trouvera les sources qui permettraient d'être creusées. Il est possible que Lyautey ait été cité à un moment donné, non pas comme un agent de l'Allemagne, mais comme un de ces officiers qui était trop porté à fréquenter ce milieu des attachés militaires allemands, qui était quand même très marqué par l'espionnite. Et il est possible, c'est une hypothèse, qu'on ait voulu l'éloigner aussi dans ce cadre-là. C'est une hypothèse. Toujours est-il que pour lui, ça a été l'événement majeur de sa vie, quelle que soit la raison.
Donc il va partir au Tonkin. C'est ce que je vous propose, Arnaud Tessier, de voir après une seconde pause.
Canal Académie. Vous écoutez Canal Académie, on retrouve Christophe Dicasse.
Je reçois Arnaud Tessier, auteur d'une biographie consacrée au maréchal Lyautey, parue chez Perrin en 2004. Et nous venons d'évoquer cette longue jeunesse, cette formation politique, cette jeunesse passionnante. Lyautey est envoyé au Tonkin, en Indochine, et là c'est véritablement une émancipation en tous les cas, un épanouissement loin de la France.
Oui, c'est presque d'ailleurs un épanouissement sensuel, si je puis dire, puisqu'il découvre un univers géographique, humain, totalement nouveau pour lui. Encore une fois, il ne faut pas oublier que il a connu, même s'il a beaucoup voyagé en Europe, il a connu Nancy, Tours, Saint-Germain-en-Laye, Bruyères dans les Vosges, un peu l'Algérie, c'est vrai, mais enfin, le grand voyage, et puis ce décor extraordinaire de l'Indochine, pour lui, c'est une découverte presque sensuelle. Le contact avec la nature, le contact avec le danger, les premières balles qui sifflent autour de lui, tout ça, c'est des choses qui vont le marquer. Et puis aussi, la rencontre avec quelques personnalités d'exception, et notamment le colonel Gallieni qui va devenir son mentor.
Alors, précisément, il existe une doctrine Gallieni avant la doctrine Lyauté ?
Oui, alors souvent on a reproché à Lyauté d'avoir un peu piraté, si j'ose dire, la pensée de Gallieni, dans la mesure où Gallieni a, avant Lyauté, posé quelques principes que lui-même d'ailleurs partageait avec d'autres figures politiques comme Lanson de l'époque, et qui était que plutôt que d'imposer de manière brutale un modèle d'administration dans ces territoires, il valait mieux s'assurer le concours des élites locales. Et puis surtout, la grande idée de Gallieni, c'était si l'on veut étendre notre influence auprès des populations, il faut montrer qu'on apporte la sécurité, la santé, l'ordre, la paix, donc la prospérité, et que la présence française, la présence des militaires français, la présence des institutions françaises, c'est la protection du paysan indochinois contre les pirates, c'est la protection contre le danger, contre l'instabilité et le désordre. Toutes sortes d'idées très simples que Gallieni n'a jamais systématisées, et c'est vrai que Lyauté s'en est beaucoup inspiré parce qu'il en a été le témoin et l'acteur de la mise en œuvre de ses idées, mais aussi parce que Gallieni s'est servi de lui. C'est-à-dire que on oublie souvent de dire que Gallieni a repéré très vite les qualités de communication, d'expression et l'habileté extrême de Lyauté. Il s'est servi de lui pour propager ses idées. C'est-à-dire, lorsque, en particulier, au moment où il sera à Madagascar, Gallieni fera un long séjour en France au tout début du siècle avec Lyauté pour essayer d'obtenir un certain nombre de crédits, de réformes de la part du gouvernement de la Troisième République, il emmènera Lyauté dans ses bagages, lui fera faire des conférences, l'utilisera comme média littéralement, de ses propres idées. Et donc, en réalité, Lyauté a systématisé, développé et popularisé un certain nombre d'intuitions de Gallieni, qui étaient des intuitions plus qu'un corps de doctrine. Mais la doctrine coloniale, politique, administrative et coloniale que Lyauté va finalement mettre en œuvre de manière très admirable au Maroc, après l'avoir testé à Madagascar, c'est quand même, il y a beaucoup d'apports propres de Lyauté, ça, on ne peut pas le nier.
Il est très critique à l'égard de la République française, et d'ailleurs il met en parallèle l'action coloniale des Anglais avec l'action coloniale française, et pour lui, il n'y a aucun doute, la République fait fausse route.
C'est-à-dire que c'est, d'une manière générale, c'est toute la politique internationale, toute la politique extérieure au sens large de la Troisième République que Lyauté déplore. Et ce qu'il reproche à la Troisième République, c'est l'absence de continuité de vue. C'est le fait que l'instabilité ministérielle, l'absence de structuration politique du système, c'est-à-dire ce côté un petit peu, cette sorte de bricolage permanent qu'est le système républicain en France à cette époque, tout ça l'agace parce que ça ôte à la politique française la continuité de vue qui permet d'agir durablement. Et il considère que ça fait le jeu du petit fonctionnaire autoritaire, l'absence de largeur de vue, l'absence de continuité dans l'action publique l'exaspère. Ils opposent cela à la force de système, soit politiquement très autoritaire comme l'Empire allemand, soit de système démocratique, mais beaucoup mieux structuré comme le système britannique. Et puis il aime beaucoup le tempérament britannique, bien connu, très pratique, très pragmatique, mais incontestablement. Et donc, c'est pour ça qu'il critique les faiblesses du système républicain. Et puis, il n'aime pas la République aussi, parce que...
Très jeune, en fait, il se révèle royaliste. Je me permets de lire une sorte de profession de foi qu'il avait écrite au collège avec un de ses amis, Antonin de Margerie. « Nous ne pouvons pas être bonapartistes à cause de l'assassinat du duc d'Enghien. Nous ne pouvons pas être orléanistes à cause de l'assassinat de Louis XVI. Nous ne pouvons être républicains parce qu'aucun honnête homme, ne peut appartenir à ce parti, donc nous ne pouvons être que légitimistes. » Voilà. Il opte vraiment pour le royalisme.
Tout Lyauté là-dedans, parce qu'il y a à la fois un peu de coquetterie et de fantaisie un peu bravache, c'est-à-dire le côté le duc d'Enghien. On voit bien qu'il y a un côté un petit peu royaliste, un peu de bravache. Et puis, il y a une conviction profonde, encore une fois, qui est que Et ce qu'il faut dans un système politique, c'est la continuité de vue, la fermeté dans le dessin. Il n'était pas hostile, en réalité, on le voit, un certain nombre d'écrits ou de gestes qu'il a eus. Il n'était pas hostile à un système républicain conservateur un peu à l'anglaise, où il y aurait eu un grand parti, un système de bipartisme. Je crois qu'un système démocratique à l'anglaise ne lui aurait pas déplu fondamentalement, peut-être même un système type 5e République, mais à la manière gaullienne, ne lui aurait certainement pas déplu non plus. En fait, il était beaucoup plus pragmatique sur le plan politique que l'affichage de ses convictions royalistes ne pouvait le laisser penser. Donc c'est vraiment ça qui l'obsédait, et puis ça se voit dans son destin, parce que malgré tout, cet homme qui était un royaliste a quand même servi la République, et selon la formule célèbre de la princesse Bibesco, c'est quand même un royaliste qui a offert un royaume à la République. Donc il a quand même servi la République avec fidélité, même s'il l'a méprisé dans le fond jusqu'à la fin de ses jours.
Alors vous décrivez dans de nombreuses pages ces sentiments politiques. Si vous voulez bien, nous allons nous arrêter sur Barrès. Quels furent ses liens avec Barrès ?
Alors des liens assez ambigus. Ils ont échangé des correspondances, ils se connaissaient un peu. Ils se sont surtout connus à la fin de la vie de Barrès, lorsque Lyautey est revenu souvent en France après la guerre de 14, quand il était résident général. Il est revenu souvent en France pour s'occuper de l'aménagement de sa maison à Thoré. Donc il s'est promené sur la colline de Sion avec Barrès. Il l'a fréquenté à l'Académie française. Ils se sont connus davantage. Il le connaissait comme écrivain. Très tôt, avant de connaître intimement Barrès, Lyautey a lu les premiers ouvrages de Barrès quand il était en Indochine. Il les lisait, les commentait Gallieni, mais il n'a vraiment connu Barrès qu'assez tard, vers la fin de la vie de Barrès. Et il y a eu un malentendu entre eux qui est très perceptible à travers les carnets, les cahiers de Barrès, où il parle de Lyautey. C'est que, après la guerre de 14, visiblement, Lyautey a espéré que Barrès serait la figure littéraire et politique, le héros, qui serait son porte-parole et qui peut-être pourrait promouvoir lui, Lyautey, le promouvoir lui, comme une sorte de recours dans une Troisième République en crise. Et Barrès a reculé un peu devant ce rôle et l'a fait sentir à Lyautey assez sèchement, même à un moment donné. Il y a un texte dans les cahiers qui est très, très dur et très juste. En même temps, Barrès avait une admiration considérable pour Lyautey, mais il considérait qu'il se trompait d'époque, qu'on n'était plus à l'époque du général Boulanger. Et il dit, il est d'avant-guerre à un moment donné. Il écrit ça dans ses carnets.
En 1920, 1921.
Oui. Voilà. Mmh. Et ce qu'il voulait dire, c'est que c'est trop tard ou trop tôt. Et puis Lyautey, ce qui l'agaçait chez Lyautey, c'était ce côté, retenez-moi, je fais un malheur, hein, pour parler un peu vulgairement. C'était le côté, je veux agir, mais je veux pas non plus trop me salir les mains. Donc je veux que quelqu'un fasse ma propagande à ma place.
Oui, on a l'impression que Lyautey va vers Barrès, oui. Un peu en client, essayant d'obtenir une méthode pour pouvoir agir davantage politiquement.
Oui, ce pauvre Lyautey cherchait, après la guerre de 14, désespérément un relais politique et littéraire, intellectuel, médiatique, avant le terme lui-même, un peu avant la lettre, pour le pousser vers le pouvoir, parce que Lyautey pensait, au fond de lui-même, qu'il pouvait être un recours pour ce régime. Parce que Lyautey faisait la comparaison assez facile entre cette réussite exceptionnelle qu'il mettait en œuvre au Maroc et puis le marasme persistant de la situation française. Mais simplement, ne voulait-il pas en tirer toutes les conséquences. Et Barrès, qui avait une longue expérience politique derrière lui, il avait été parlementaire, qui avait le souvenir de ce sacrifice immense de la Grande Guerre, des tranchées, que Lyautey finalement n'avait pas vu de si près, même s'il était un homme très courageux, mais il était resté contre son gré au Maroc pendant la plus grande partie de la guerre. Barrès trouvait qu'il était un peu irréaliste et inconséquent de vouloir jouer un rôle national sans en assumer les contraintes et les conséquences. Et on ne peut qu'opposer de ce point de vue-là le personnage de Lyautey à celui de De Gaulle. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, lorsqu'on veut assumer un destin national, il faut avoir le courage, en tout cas une certaine forme de courage. Lyautey ne manquait pas de courage dans aucun domaine, il a eu un courage immense toute sa vie. Mais il y a un certain courage qui est celui d'accepter de ternir son image dans certaines circonstances, de faire de la politique quelquefois de bas étage. Pour faire de la grande politique, il faut quelquefois salir des mains, quelquefois les couvrir de sang. Et le parallèle avec Richelieu, à cet égard, revient aussi. Lyautey n'a jamais voulu franchir ce Rubicon.
Alors, il y a un malentendu avec Barrès. Est-ce qu'il y a un malentendu aussi avec Maurras ?
Alors, avec Maurras, c'est plus simple, d'une certaine manière. C'est-à-dire que Lyautey avait une admiration considérable pour Maurras, pour son œuvre doctrinale. plus pour d'ailleurs pour le doctrinaire que pour le l'éditorialiste. Il avait une admiration considérable pour Maurras et a toujours été intéressé par Maurras. Ils ont toujours correspondu avec, ils ont toujours correspondu ensemble. Alors souvent dans les livres on sous-entend qu'il était l'action française du répugné parce que on n'aime pas trop dire que Lyautey avait ses côtés maurrassiens, mais il était authentiquement attiré par la pensée maurrassienne. Il y avait une chose qui le gênait, ça c'est absolument vrai et indéniable dans l'action française, plus que chez Maurras dans l'action française. Il y avait deux choses qui le gênaient. La première, c'était qu'il trouvait qu'après la guerre de 14, paradoxalement, l'action française avait été beaucoup trop indulgente avec des figures républicaines réprouvées jusque-là et que lui continuait de réprouver pour des raisons très précises, en particulier Clémenceau. Il trouvait que l'action française avait des complaisances pour Clémenceau après la guerre de 14 qui n'étaient absolument pas justifiées. C'est un peu paradoxal. La deuxième chose, il n'aimait pas trop les attaques personnelles, alors antisémites ou non antisémites d'ailleurs. Et en particulier, il a failli se brouiller avec Maurras lorsque Léon Daudet s'en est pris à Joseph Reynac, grande figure républicaine proche de Gambetta, qui avait été un grand dreyfusard, mais qui était ancien, un esprit très critique sur la République. Et Lyautey n'a pas supporté les attaques contre Reynac. Il avait sur son bureau, d'ailleurs, c'est assez amusant, jusqu'à la fin de sa vie, la photo de Joseph Reynac et la photo du comte de Chambord. Et ils ont failli se brouiller, mais ils ne se sont pas brouillés, puisqu'ils se sont encore vus et ils ont échangé beaucoup d'idées au moment de la crise de 34.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie. Un jour dans l'histoire reçoit Arnaud Tessier, auteur de la biographie parue chez Perrin, consacrée au maréchal Lyautey. Nous nous retrouvons après une dernière pause.
Vous écoutez Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les sur Canal Académie, la première radio académique francophone. www.canalacademie.com.
Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Arnaud Tessier, auteur de la biographie consacrée au maréchal Lyautey, une biographie parue aux éditions Perrin l'année passée. Alors, nous évoquions ses idées politiques, ses liens avec Barrès, ses liens avec Charles Maurras. Il y a un autre pilier de l'action française, c'est Jacques Bainville. Et d'un point de vue des idées sur les relations internationales, il y a un parallélisme entre la pensée de Lyautey et la pensée bainvillienne.
Oui, alors de même que Lyautey a pensé que Barrès pouvait être un relais pour son image, pour sa promotion politique, il n'a jamais pensé cela, je pense, de Maurras, pas vraiment, parce que Maurras était trop marqué. Il est certain qu'il était attiré aussi par Bainville, ils ont échangé des correspondances, il l'a beaucoup lu. Je crois que ce que Bainville et Lyautey avaient en commun, et d'ailleurs Lyautey le dit dans une de ses lettres à Bainville de manière très directe, il lui dit « Vous avez vu des choses que moi aussi j'ai vues ». Ce qu'il admirait chez Bainville, c'était sa lucidité et son aptitude à prévoir, son sens de la prospective en quelque sorte, son aptitude à prévoir les événements, à prévoir les évolutions, et aptitude, capacité de prédiction et de prévision qui s'appuyait dans les deux cas sur une connaissance étendue de l'histoire. Ça, je crois qu'aucun homme mieux que Bainville, et Lyautey lui ressemblait beaucoup à cet égard, n'illustre cette idée selon laquelle on ne comprend la politique du présent et la politique à venir qu'en ayant une connaissance très étendue de l'histoire restante ou plus ancienne. Et donc, il a beaucoup aimé les livres de Bainville, son livre sur les conséquences politiques de la paix, ses livres sur l'Europe. Enfin, il le lisait attentivement, il lisait ses articles. Il y a une histoire qu'on raconte souvent, c'est que est-elle authentique ou pas, mais enfin elle est significative. On disait qu'il se faisait apporter l'Action française pliée d'une certaine manière, de façon à ne pas voir l'article de Daudet, de façon à voir immédiatement l'article de Bainville. Alors, l'anecdote est peut-être apocryphe, mais elle est révélatrice. Mmh. Il se sentait beaucoup plus proche de l'analyste Bainville que du polémiste Daudet, évidemment. Et il aimait beaucoup, beaucoup cette lucidité, ce sens de l'histoire qu'avait Bainville. Mmh. Donc, mais en même temps, c'est un peu la même chose qu'avec Barrès, ou avec Maurras, ou avec d'autres d'ailleurs. On sent qu'il y a une grande proximité entre ces hommes. Et puis, ça ne va pas au-delà d'un certain niveau. Pourquoi ? Parce que je pense que ce qui fait l'originalité de Lyautey, c'était un homme d'une culture et d'une intelligence tout à fait exceptionnelle, un homme qui avait une intuition des choses politiques, qui avait une intuition des évolutions internationales extraordinaires. Il y a des lettres de Lyautey de la fin de la guerre de 14 qui sont des lettres de visionnaires, littéralement, où il annonce la Deuxième Guerre mondiale avec une précision qui donne le frisson. Mais en même temps, c'était aussi un homme d'action et un politique dans la pratique. C'était un administrateur, un grand fonctionnaire. On oublie souvent ça. C'était un très grand fonctionnaire, un très grand serviteur de l'État. Et donc, il n'a jamais théorisé dans des écrits ses idées politiques. Et de leur côté, Bainville et Maurras n'ont jamais été des hommes d'action. C'était des intellectuels, des historiens, des penseurs politiques de très très haute volée, mais Lyautey empruntait un peu aux deux mondes. Et c'est peut-être son problème, c'est qu'il n'a peut-être pas su, comme c'est souvent le cas chez les êtres humains, choisir. Il a voulu un peu le meilleur des deux mondes. Il a voulu être à la fois un homme d'action et un grand esprit. Il a réussi à quand même beaucoup de choses. Mais il n'a pas vraiment choisi, il n'a pas vraiment franchi le pas.
Alors, il y a, malgré ce décalage entre la pensée politique qui est royaliste et la République, il y a malgré tout ce ministère, il est appelé par Aristide Briand pendant la Première Guerre mondiale. Mais cette expérience ne sera qu'une expérience éphémère.
Qui ne dure que quelques semaines, c'est une des rares erreurs de Lyautey. Et on dirait même qu'il accomplit cette erreur en connaissance de cause. Il est vraiment venu à reculons à Paris. Il est venu à reculons au ministère de la guerre. Il exerçait ses fonctions à reculons. Il est parti, par contre, non pas à reculons, mais en claquant la porte. Je pense qu'il savait, en mettant les pieds sur le sol français, qu'il faisait une erreur. Mais il n'a pas pu résister, en quelque sorte. Il n'a pas pu résister, d'abord parce que il souffrait quand même d'être au Maroc, loin du champ des opérations. Mais il est certain que ce n'était pas comme ministre de la guerre qu'il allait avoir une action véritable sur les opérations, puisque quand il est arrivé, il a appris qu'on ne l'avait pas attendu pour désigner comme généralissime le général Nivelle. Donc on ne lui a même pas laissé la possibilité d'influer sur le choix du commandant en chef.
Vous réhabilitez d'ailleurs un peu Nivelle, hein.
Oh, je ne réhabilite pas. Je relativise un peu la responsabilité qu'on fait peser sur ses épaules. Citant cela, Jean-Baptiste Durosel, disant que ce n'était pas si évident de se rendre compte qu'avec Nivelle, on allait au désastre, et remarquant qu'il y a eu d'autres désastres pendant la guerre qui, en fait, en termes de pertes en vie humaine, ont été aussi lourds. On a peut-être surestimé l'impact des responsabilités de Nivelle parce que l'erreur de Nivelle stratégique est arrivée à un moment de la guerre où on espérait précisément énormément de ce tournant. Et il y a eu une déception énorme, et puis cette boucherie. Il y a eu d'autres boucheries, on a beaucoup fait peser. Et Lyautey n'a pas vu tout de suite que Nivelle... Enfin, Lyautey n'a pas perçu en Nivelle un incapable. Nivelle faisait une très bonne impression auprès de beaucoup de gens. Donc les choses ne sont pas si simples. Et donc Lyautey savait qu'en fait, il faisait une erreur. Mais il n'a pas pu résister parce qu'il y a toujours ce... D'abord, ça le faisait entre gouvernements, cette fascination de la politique quand même. Et puis parce que son orgueil et sa volonté d'agir le poussaient quand même à essayer. Mais il a été exactement à l'opposé de ce qui faisait ses qualités au Maroc, comme un de ses jeunes conseillers remarquables lui a dit, Guillaume de Tardes. Il lui a expliqué dans une note très 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 audacieuse, comme peu de collaborateurs savent en écrire à leur ministre, et il lui expliquait en substance, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu le contact avec l'opinion, vous ne savez plus parler à la presse, vous ne savez plus prendre de décision. Ça, en substance, ça voulait dire, mais où est le lioté du Maroc? Il n'est pas là au ministère de la guerre. Donc ça a été un fiasco. C'était un fiasco, et c'était un fiasco jusque dans la manière dont il est parti, parce que beaucoup de gens n'ont pas très bien compris pourquoi il partait dans ces conditions, pourquoi à ce moment-là plutôt qu'à un autre, pourquoi sur ce motif plutôt que sur un autre. Et donc ça a été quand même une expérience de grande amertume pour lui, une très grande amertume. Mais il est retourné au Maroc.
Donc il retourne au Maroc, et au fond c'est là où il est le meilleur, c'est l'ioté l'Africain, comme vous le qualifiez. Il a du temps. Il peut travailler, et vous n'hésitez pas à dire qu'au fond, il fait une politique capétienne.
Oui, c'est-à-dire qu'il fait au Maroc la monarchie qu'il ne peut pas faire en France. Car il a utilisé le matériau de l'histoire marocaine, de la monarchie marocaine existante, mais enfin qui était loin d'être une monarchie très structurée, et surtout dont l'emprise réelle sur la société et le territoire marocain était très limitée. Il a bâti quelque chose qui ressemblait à un État structuré, à une monarchie structurée. Le Maroc actuel lui doit évidemment énormément. Donc il a fait son mécano institutionnel en quelque sorte là-bas, à défaut de pouvoir le faire en France, avec une habileté extrême, en suscitant des critiques et des hostilités très vives.
Notamment du Quai d'Orsay.
Du Quai d'Orsay, des milieux colons, et notamment du lobby colon d'Alger, qui, à côté du Maroc, critiquait très violemment l'IOTE.
Il respecte vraiment, dans sa politique administrative, il a un respect de l'autochtone qui est assez impressionnant.
L'autre jour, un ancien pied noir d'Algérie, un ancien très proche de l'Algérie française, me disait avec beaucoup de sincérité, et ça m'a frappé, dans un dîner, il me disait « Nous avons eu deux ennemis, c'est Napoléon III et Lyoté. » Et alors, tout en disant beaucoup de bien de Lyoté sur le plan de la figure. Parce que Lyoté était considéré, à juste titre d'ailleurs, comme l'ennemi du colon, en tout cas pas l'ennemi du colon, mais en tout cas l'ennemi de la colonisation à l'algérienne, et le protecteur des indigènes. C'est-à-dire, il voulait éviter à tout prix qu'on refasse au Maroc l'erreur qu'on avait faite en Algérie, cette sorte d'imbrication de deux sociétés, qui ne pouvait, selon lui, aboutir tôt ou tard qu'à une explosion, comme l'avait annoncé d'ailleurs avant lui Tocqueville, dans des écrits sous la monarchie de Juillet. Et donc, c'était certainement de sa part une forme de lucidité, mais qui lui a fait beaucoup d'ennemis. Pendant cette période, cette phase, la fin de son protectorat marocain, de son proconsulat marocain, il faut dire aussi que son caractère, son tempérament avait vu s'accentuer son autoritarisme naturel, que ça a à la fois aidé à diriger le Maroc à cette époque délicate de la fin de la guerre, de la sortie de la Première Guerre mondiale, mais que ça a aussi achevé de lui faire beaucoup d'ennemis, d'où le départ forcé qu'on lui a imposé au moment de la guerre du Rif.
Oui, il est vraiment très critiqué. On lui reproche d'être l'homme qui a tous les pouvoirs un homme isolé.
Ah, c'était une sorte de dictateur, mais à côté du sultan dont il a toujours préservé l'autorité au moins nominale, mais même pour lequel il manifestait un respect authentique. Il a quand même dirigé le Maroc d'une main très autoritaire. Il a maintenu la censure bien au-delà des délais reconnus comme nécessaires. Il a été considéré assez vite après la guerre, tout en étant fait maréchal de France, il était considéré assez vite après la guerre comme une sorte d'autocrate, et le cartel des gauches... Il a été protégé en quelque sorte par son prestige et puis par le bloc national et la présence d'Alexandre Millerand à la présidence de la République. Mais ensuite, le cartel des gauches a voulu sa tête et l'a obtenue très rapidement.
Alors il y a, nous arrivons Arnaud Tessier au terme de notre émission, il y a une constante dans sa vie, c'est quand même un certain pessimisme.
Oui, un pessimisme extrême, c'est-à-dire que...
Est-ce qu'on peut parler de nihilisme ?
Non, car s'il avait été nihiliste, il n'aurait rien fait. Ou alors il aurait tourné un peu sur le genre Pierre Loti, parce qu'il avait un certain talent de plume, il aurait très bien pu se lancer dans une littérature coloniale ou militaire. Il a choisi l'action, la construction. C'est un pessimiste qui quand même n'arrêtait pas de faire des choses, qui n'arrêtait pas de construire des routes, des écoles, des ports, des villes. Donc c'est un pessimiste qui faisait des choses. Donc c'est ce qu'on appelle un pessimiste actif. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais été quitté par ce doute existentiel qui est finalement, qu'est-ce qui restera ? Est-ce que j'aurais servi à quelque chose ? Est-ce que tout ça valait la peine ? Il y a beaucoup de témoignages qui montrent que dans ces derniers jours, cette sorte de dépression, de désespérance sur l'inutilité des choses, sur la vanité des choses, le fait qu'elles passent, tout ça l'a habité jusqu'à la fin de sa vie. Mais en même temps, et c'est ce que je trouve admirable chez ce personnage, finalement, qui n'a pas que des côtés sympathiques, qui a des côtés souvent agaçants, c'est que c'est un homme qui a été malheureux toute sa vie, ça j'en ai la conviction, malheureux toute sa vie, mal dans sa peau, comme on dit un peu trivialement.
Il va se marier très tardivement.
Il était mal dans sa peau, mal psychologiquement, sa personnalité était compliquée, tourmentée. Il était malheureux toute sa vie, et pourtant il n'a pas arrêté de faire des choses, et jusqu'à son dernier souffle, il continuait d'agir pour son pays. Donc c'est un pessimiste, mais d'un genre spécial. C'est un pessimiste qui pensait qu'il fallait toujours faire quelque chose. Parce que peut-être, selon la formule célèbre de De Gaulle, tout recommence toujours, et qu'il avait au fond de lui-même le secret espoir que d'autres reprendraient face à des situations renaissantes, de décadence renaissante, que d'autres reprendraient le fil. Il y a quelque chose qui l'a quand même beaucoup marqué, je pense, et qui a beaucoup assombri sa vie à la fin. C'est qu'il a eu cette perception très tôt de ce que l'Europe partait sur une pente terrible, et ça c'est ce qu'il partageait avec Bainville, ce point de vue, et qu'on allait de nouveau vers la guerre, et ça je pense que ça a beaucoup assombri sa vie, la lecture de Mein Kampf, la montée du nazisme, il a vu tout ça dans ces derniers mois, et je pense que ça n'a pas arrangé son pessimisme naturel.
Alors je voudrais quand même terminer sur une note positive, vous le situez à égale distance, ce qui est d'extraordinaire, entre le réalisme et l'idéalisme.
Oui, parce que il est resté en même temps un homme épris de principes et entraîné par des rêves quand même. Je pense que ce mélange de réalisme et d'idéalisme, c'était un grand politique, un esprit d'une lucidité extrême, d'une culture approfondie, mais qui avait gardé quand même une âme assez enfantine jusque dans ses derniers jours. Il y avait quelque chose, il y avait une part de, un peu d'enfance qui est restée chez lui. Et peut-être que cet idéalisme, c'est ce côté, ces souvenirs de jeunesse, ces rêves d'enfant qui sont restés en lui jusqu'à la fin de sa vie. C'est étrange comme à quel point on peut être fragile et énergique, comme l'était Lyautey. Il était d'une énergie incroyable, physique et intellectuelle et morale, et en même temps d'une fragilité presque enfantine.
Arnaud Tessier, je vous remercie. Merci. Rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre Lyautey, un ouvrage qui a été primé par le Cercle de l'Union présidé par Gabriel Debreuil. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Je recevrai Philippe Levillain, Actualité oblige. Nous parlerons de relations internationales et en fait de la politique vaticane tout au long du XXe siècle dans le monde. Merci beaucoup.
Merci.
Et à la semaine prochaine.